Ce balado est présenté par la clinique du PEPS de l'Université Laval, la plus grande équipe en médecine du sport et de l'exercice à Québec, avec plus de 50 professionnels dans 15 services. Une clinique accessible à tous, à tous les niveaux, pour les gens actifs. Bon épisode! Bienvenue à ce nouvel épisode du balado Santé sans rendez-vous par la Faculté de médecine de l'Université Laval. Je suis Raymond Poirier et j'animerai cet épisode sur la physiothérapie et l'athlète de haut niveau. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec le physiothérapeute, professeur clinique et chargé d'enseignement à l'École des sciences de la réadaptation de la Faculté de médecine de l'Université Laval et directeur des opérations médicales pour la clinique du PEPS, Michael Morin, ainsi que l'étudiant à la maîtrise en physiothérapie de la Faculté de médecine de l'Université Laval et capitaine de l'équipe de football du Rouge et Or, Yann Leroux. J'ai le plaisir d'être en compagnie de deux personnes qui agissent en physiothérapie, à la fois comme physiothérapeute ou comme étudiant à la maîtrise en physiothérapie. Le premier, outre cette spécialité, est également professeur clinique et chargé d'enseignement à l'École des sciences de la réadaptation, également directeur des opérations médicales pour la clinique du PEPS, Michael Morin. Bonjour.
Bonjour.
Et le second, donc étudiant sous la supervision de Michael, d'ailleurs également athlète Rouge et Or, capitaine du football Rouge et Or, plus de 100 personnes qui sont réunies là-dessus. Donc Yann Leroux, bonjour.
Bonjour.
Alors, on est avec vous, évidemment, pour parler physiothérapie, pour parler sport, pour parler athlétisme de haut niveau également. Mais je pense que la première question qu'on devrait se poser, c'est peut-être la genèse de tout ça. Donc, je le disais, vous êtes les deux, vous avez été les deux happés par la physiothérapie. Il existe également plusieurs branches à ce domaine-là, qui est une discipline quand même très, très riche. Alors, pourquoi vous avez été vers la physio et peut-être plus précisément, pourquoi le domaine sportif?
Moi, personnellement, j'ai joué au hockey presque toute ma vie. Je joue encore. J'ai 40 ans. Je suis blessé. J'ai eu 3 fractures des différents bras. J'ai fait de la physiothérapie plus jeune. C'est sûr que c'est quelque chose qui m'a toujours inspiré. J'ai fait plusieurs sports aussi. Ça veut dire que j'ai toujours été proche du milieu sportif. Je suis quelqu'un de très actif. J'aime côtoyer les gens aussi dans le milieu du sport. Ça veut dire que ça a toujours été une passion pour moi. Ça veut dire que allier passion-travail, c'est vraiment plaisant.
Puis pour ma part, un peu comme Michael, toute ma vie, j'ai été un grand sportif, c'est-à-dire que j'ai touché à peu près tous les sports possibles. Puis dans ma carrière de football, plus précisément, comme Michael l'a mentionné, là, ça implique beaucoup de blessures, ça implique beaucoup de bobos. Puis en tant qu'athlète, j'ai vraiment été témoin de l'importance du physiothérapeute dans le milieu du sport. Puis c'est clairement le milieu du sport puis mon expérience dans ce milieu-là qui m'a amené vers la physiothérapie. Puis encore aujourd'hui, là, tu sais, j'ai une certification en thérapie du sport pour mon baccalauréat. Puis c'est clairement ça qui m'allume, là. Fait que...
Alors, en fait, la physiothérapie est venue par le sport. Le sport était dans une masse de sport, en fait, parce que je pense que les deux, c'est clair, vous avez pratiqué beaucoup de sport au fil du temps. Éventuellement, en fait, de ton côté, Yann, ça s'est cristallisé sur le football?
Oui, en effet. J'ai commencé à pratiquer le football en 5e année du primaire, donc ça fait quand même longtemps que je fais du football. À l'époque, je faisais beaucoup d'autres sports, notamment le hockey, la natation, puis d'autres choses comme ça. Par contre, c'est vraiment... la présence de mes amis au football qui m'ont vraiment attiré initialement vers ce sport-là. Puis ensuite, c'est tout l'aspect stratégique, l'aspect d'esprit d'équipe. Puis le principe de, à 100 joueurs environ dans une équipe de football, des fois un peu plus, des fois un peu moins, la capacité à une équipe de 100 gars de tous s'entendre sur la direction vers où on veut aller, puis de, à 100, pouvoir pousser dans cette direction-là, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a allumé puis qui m'a attiré vers le football. Donc...
Et de ton côté, Michael, il me semble que c'était d'abord le hockey, puis le football est venu en cours de route.
Oui, effectivement. Mon père est un joueur de football là, au niveau collégial, mais on est 3 garçons chez nous, puis on a tous joué au hockey. C'est un peu drôle un peu. Mon père s'est mis à jouer au hockey plus tard pour nous suivre à ce niveau-là. Mais j'ai toujours eu une passion, un peu comme Yann pouvait mentionner, dans le fond... l'esprit d'équipe, on entend souvent, en tout cas dans les différents milieux que j'ai gravité, que c'est une école de vie, d'apprendre, c'est une micro-société, d'apprendre à vivre avec les autres, de prendre des décisions qui ne sont pas toujours communes. Il y a des niveaux d'intensité, des niveaux d'émotion aussi, d'apprendre à gérer tout ça. Je pense que c'est une école de vie qui aujourd'hui nous donne des outils pour mieux gérer dans notre vie en société, au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau de... plusieurs aspects. Ça veut dire que le sport est un aspect très important. Puis, ben, moi, j'ai pas fait du sport de très haut niveau, mais j'ai gravi dans plusieurs niveaux à ce niveau-là. Mais l'aspect que je voulais mentionner, c'est qu'il y a eu une évolution. Parce que moi, plus jeune, toute ma carrière, oui, on pouvait aller consulter, exemple, un physiothérapeute ou un médecin à l'extérieur des équipes. Mais je regarde aujourd'hui la structure qu'il y a dans les écoles secondaires, les écoles collégiales, collégiaux, les universités. C'est vraiment impressionnant l'évolution qu'il y a eu à ce niveau-là, l'encadrement, le suivi des commotions cérébrales, etc. C'est vraiment intéressant. Puis j'ai eu la chance dans les 20 dernières années de voir toutes ces évolutions-là puis d'y participer. Ça, c'est vraiment passionnant à ce niveau-là.
Oui, quelque chose qui était un peu optionnel à une certaine époque ou qui était un à côté est devenu un acquis. C'est nécessaire désormais d'avoir cet accompagnement-là, cet appui-là, et que cet appui-là soit de plus en plus important plus on monte de niveau aussi dans le sport. En fond.
Oui, vraiment, parce que si on recule quelques décennies, c'était beaucoup l'entraîneur qui gérait l'ensemble de l'équipe. Aujourd'hui, en 2025, on parle d'équipe intégrée. Ça veut dire que, il y a la partie entraîneur, mais il y a tout l'aspect science médico-sportive à côté. Ça veut dire que pour la performance d'une équipe, ça prend un équilibre entre les deux. Ça prend une excellente équipe d'entraîneurs, mais ça prend tous les à côté au niveau de la physiologie de l'exercice, au niveau de la préparation mentale, au niveau justement de l'optimisation de la blessure au retour de l'athlète vers la réathlétisation, puis d'amener l'ensemble des athlètes avec des cycles de repos puis des pics de performance, des sommets de performance pour s'assurer d'arriver aux Olympiques puis d'avoir la meilleure performance des quatre dernières années. Ça veut dire que tout ça, c'est super intéressant au niveau scientifique. Puis il y a de plus en plus de littérature, de livres à ce niveau-là. Il y a des podcasts, il y a des gens, des spécialistes qui partagent leurs idées. Puis ça fait une très grande communauté au niveau international.
Et ça veut dire, en fait, dans un contexte où on pratique du sport de haut niveau et on étudie sur la physiothérapie. Je veux dire, si on était dans un domaine artistique, je dirais pratiquement, Yann, que tu fais de la recherche-création au final.
Oui, bien, en effet, tu sais, le football, il y en a beaucoup qui disent que c'est un jeu de prévention de blessures, mais aussi de gestion de la douleur. Parce que la saison est courte, la saison est très intense. Puis, à la fin de la saison, c'est très rare que quelqu'un ne ressent pas de douleur ou n'a pas subi de blessure pendant la saison. Fait que mes connaissances en physiothérapie, mes études en physiothérapie m'aident vraiment à optimiser ma condition pendant la saison et surtout pendant la saison morte, là.
Et j'imagine que ça vient influencer à la fois un peu la perspective que tu as face à ta discipline, autant que dans ta sélection, par exemple, de sujets de maîtrise, dans la manière dont tu abordes aussi les cours, les séminaires, etc.
Oui, 100%. C'est les connaissances que j'ai, ou du moins qu'on voit en cours, ben, je peux les mettre en application tout de suite parce que je fais comme partie de la patientèle, mais aussi du professionnel. Donc, ça m'aide à comprendre un peu le pourquoi derrière chaque intervention, puis aider aussi l'équipe médicale de l'équipe de football à faire passer ça à travers les joueurs. Souvent, il y a des joueurs qui viennent me demander des conseils. Puis moi, ben, je prétends pas être un physiothérapeute encore. Il me manque ma maîtrise. Mais je peux au moins les guider vers des ressources qui vont être capables de les aider en fonction de leurs problèmes. Fait que...
Et j'imagine même pour le superviseur aussi, autant que celui qui accompagne l'équipe également sur le plan de la physiothérapie, mais ça devient une dynamique particulière d'accompagner un joueur qui lui-même est en train de développer des compétences, des connaissances dans un domaine comme celui-là. Donc toi aussi, tu fais un peu de recherche appliquée à travers ça, parce que tu peux tester, valider tes hypothèses avec l'équipe ou avec les équipes que tu accompagnes.
Oui, vraiment. Puis surtout que, comme Yann, il y a des connaissances, vous avez le temps d'avoir des discussions plus approfondies sur certains sujets, si on voit des tendances, on parlait de prévention, ben des fois, au cours de la saison, dépendamment de la partie qui a été d'entraînement pré-saison, ben on va voir que dans la saison, il y a eu des tendances d'avoir un plus gros pourcentage de blessures, par exemple, aux ischio-jambiers. Mais là, on se pose la question, OK, selon nos statistiques, pourquoi qu'on a eu plus de blessures cette année? Est-ce que c'est juste un hasard dû à des traumas ou c'est vraiment dû à la préparation physique qu'on a faite avant? Est-ce que c'est la quantification de stress mécanique? Ça veut dire qu'il y a eu trop de pratique, pas assez de repos. Ça veut dire que là, on amène ça auprès des entraîneurs, on en discute en groupe, puis là, on prend une direction. On essaie, on évalue. Ça veut dire que c'est beaucoup d'essais-erreurs. On joue beaucoup avec des statistiques. On sait qu'il y a une partie de blessures qui peuvent être traumatiques, qu'on ne peut pas contrôler. Mais on essaie de contrôler un peu l'incontrôlable. T'sais, c'est toujours cette partie-là qui devient intéressante. Puis à partir de la science, les nouvelles technologie, les nouveaux outils aussi, comme physiothérapeute, on a des outils pour aider à traiter autre que nos mains. Ça veut dire qu'on peut combiner des fois nos mains avec un certain type d'outils ou d'une nouvelle technologie. Ça veut dire que ça nous permet d'avoir des feedbacks. Puis là, ben, Yann, étant donné qu'il a un niveau plus avancé de connaissances, ben, il est capable de nous donner des idées vraiment plus intéressantes. Puis c'est un peu ça le monde du sport. Hein. C'est un monde qui évolue constamment, puis ça nous permet justement de se positionner puis d'essayer de se poser des questions, de dire pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, puis comment on nivelle par le haut. C'est tout le temps ça, c'est un peu notre dicton qu'on a au niveau du Rouge et Or, de toujours dire, on essaie d'amener ça à un autre niveau, puis d'amener la performance à un autre niveau, tout en respectant l'athlète, bien sûr.
Si je peux renchérir, on parle souvent, pendant les études de physiothérapie, de l'approche biopsychosociale, puis ce que je trouve plaisant de mon poste de joueur et étudiant, c'est le fait que je peux vraiment avoir un indice sur comment les autres joueurs se sentent, comment un patient se sent. Puis, tu sais, souvent, on est dans les évidences scientifiques, la pratique basée sur l'évidence, mais il y a aussi l'aspect comment le joueur se sent à travers tout ce traitement-là puis à travers toutes ces évidences-là. Fait que je trouve ça le fun de pouvoir avoir les deux côtés de la médaille en même temps.
Oui, puis c'est intéressant, en fait, le point qui est amené à travers ça, c'est de se dire, bien, la blessure, au départ, en fait, c'est un peu la porte d'entrée vers le diagnostic plus large. Donc, pourquoi la personne a cette blessure-là? Qu'est-ce qui l'a causée? Qu'est-ce qui est associé à? Est-ce que c'est purement sur les éléments physiques ou il y a d'autres éléments sur le mental et le reste? Donc, ça, c'est une approche qui est quand même beaucoup plus globale que juste le muscle jusque-là, juste la partie du corps qui est concernée.
Oui, effectivement. On parle souvent du diagnostic. Ça veut dire que oui, on va avoir un diagnostic auprès du médecin ou diagnostic physiothérapeutique avec le physiothérapeute. Mais quand on arrive pour le traiter, il faut toujours aller vers la source. Parce qu'on peut... Tu sais, oui, on a des canevas, des recettes, des études qui montrent qu'on a une façon de procéder pour pouvoir atteindre nos objectifs. Mais ça reste des humains qu'on traite. Que ce soit un athlète, que ce soit Wayne Gretzky ou que ce soit un athlète amateur de 50 ans qui veut faire un demi-marathon, ça reste un humain derrière. Puis à travers chaque humain, il y a un aspect psychosocial, comme Yann disait. Des fois, il y a du stress à la maison, il y a du stress au travail. Peu importe aussi la température à l'extérieur. On vit au Canada où est-ce qu'il y a des fluctuations. Il y a beaucoup de sources externes qui peuvent influencer une blessure, même si c'est le même diagnostic. Puis ça, on pourrait parler avec plein de professionnels de la santé, peu importe ce qu'ils font dans la vie, ils reviendraient toujours à ce point-là en disant faut creuser pour aller chercher la source avec notre patient. Puis ce qui est le fun en physiothérapie, c'est qu'on a la chance d'avoir quand même du temps avec notre patient, des fois des demi-heures, des fois jusqu'à une heure, pour discuter avec eux, puis apprendre à les connaître, puis avoir une relation un peu plus de proximité, ce qui nous permet des fois d'aller chercher des aspects qui vont nous aider à faire progresser le patient, autant au niveau de sa blessure et son diagnostic à ce niveau-là.
Est-ce que c'est une approche qu'on prend un peu pour acquis ou une philosophie qu'on prend un peu pour acquis qui est en place ou au contraire, Michael Morin, quelque chose que tu as développé de ton côté puis qui s'est développé peut-être aussi en parallèle dans l'idée justement d'avoir des approches plus humaines peut-être aux soins, à la médecine? Entre autres, je voyais que tu avais côtoyé Patch Adams à une certaine époque. Donc, est-ce que des éléments comme ça qui sont venus influencer cette vision-là dans le fond du soin puis de la pratique?
Ce serait de mentir que de dire non, ça c'est sûr. Quand j'étais en secondaire 5 au secondaire, le film de Patch Adams qui est sorti en 98, je ne me trompe pas, a été un élément qui a vraiment changé ma vie. C'est vraiment ça qui m'a donné la vocation d'aller en santé, d'aider mon prochain, etc. Puis quand j'ai réussi à rentrer en physiothérapie dans les années 2000, en 2006, j'ai écrit à la Gesundheit Institute pour où est-ce que Patch Adams, son institut aux États-Unis, pour voir si je ne peux pas aller faire du bénévolat et en apprendre plus sur cette vision-là puis ces valeurs-là que moi, j'aurais aimé pouvoir mettre dans ma pratique. Puis ils m'ont répondu, puis on a commencé à échanger, puis finalement, je suis allé passer deux étés chez eux. J'ai fait un voyage humanitaire aussi au Pérou avec 80 clowns de différentes parties du monde. C'était vraiment passionnant. Puis j'ai eu la chance d'avoir des discussions un à un avec justement Patch Adams, puis voir un peu sa vision très humaine, où est-ce qu'il mettait ses limites, parce que lui, il rentre vraiment dans la vie personnelle des patients très, très proche. Il fait des entrevues de 4 heures avec ses patients. Il y a vraiment une vision un peu extrême. On ne se cachera pas par rapport à notre système de santé publique, là. On ne se le cachera pas. Mais je pense qu'on est capable d'en retirer. J'ai retiré quand même de très belles valeurs de cette relation-là, puis de toute cette expérience-là. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, Yann peut en témoigner, mais Je pense que j'aime ça avoir une relation assez proche avec mes athlètes, tout en respectant l'aspect professionnel, bien sûr, mais être capable de bâtir une relation, puis de suivre sur du longitudinal, puis d'être capable d'aller vraiment chercher le problème, discuter avec eux, puis d'utiliser toujours une... Moi, j'aime beaucoup utiliser une touche d'humour, essayer de désensibiliser, parce que aller voir un médecin ou un physio, des fois, il y en a que ça les stresse, il y en a qui sont un peu braqués, mais d'utiliser une petite touche d'humour en creusant, en allant parler de leur famille, en essayant de voir un peu le milieu social, d'où est-ce qu'ils viennent, ça nous permet d'avoir de créer des relations plus proches, puis de mieux comprendre, dans le fond, l'athlète qui est devant nous, puis de l'aider à performer par après.
Et Yann, semble-t-il que tu peux en témoigner?
Je peux en témoigner, en effet. Puis, tu sais, en tant que physiothérapeute ou étudiant en physiothérapie, on est formé pour reconnaître ces indices-là dans la vie de tous les jours. Malheureusement, les athlètes ne sont pas nécessairement au courant de ces petits indices-là qui peuvent faire une différence à long terme. Mais comme Michael dit, son approche vraiment plus globale du patient plutôt que de la pathologie fait vraiment en sorte qu'il se met dans la meilleure position possible pour remarquer ces indices-là. Fait que je lui lève mon chapeau. À date, ça fonctionne.
Oui, puis dans une approche collaborative où on revient un peu à l'idée d'esprit d'équipe, de travail d'équipe, ben, on comprend que c'est avec des assises comme ça que l'équipe soignante, l'équipe de soins fait aussi partie intégrante de l'équipe de sport comme telle, parce que nécessairement, ce que vous remarquez de votre côté, tu le disais tantôt, ben, ça peut influencer ce que l'entraîneur fait et vice-versa. Donc, j'imagine que ça crée des assises encore plus fortes de cohésion entre les différents acteurs de l'équipe.
Oui, effectivement. D'établir une bonne base de communication à travers l'équipe intégrée, incluant les entraîneurs, puis... Comme on dit, avant, on mettait l'athlète, puis après ça, il y avait les entraîneurs, puis c'était comme très hiérarchique. Maintenant, on met beaucoup l'athlète au centre, puis les gens qui gravitent autour de l'athlète, qui vont l'aider à performer, puis d'atteindre son pic. Puis des fois, c'est 10%, 20%, puis chacun comme son rôle, puis les pourcentages peuvent changer au cours de l'année, changer au cours du cycle qui va se rendre, justement, d'arriver à son maximum de performance. Ça veut dire que ça, c'est super intéressant. C'est pas une science parfaite. Puis on peut avoir une recette qui marche super bien avec tel athlète qui est allé chercher une médaille d'or aux Olympiques, tandis qu'on fait la même recette avec l'autre, puis ça marche pas du tout. Parce qu'on traite des humains. Ça veut dire qu'il faut vraiment être capable d'aller trouver le X. Puis des fois, ça prend plus de temps. Faut que des fois, l'athlète apprenne à se connaître, parce que lui non plus apprenne pas, ne connaît pas nécessairement tout le temps comment atteindre lui-même son X. Ça veut dire que chacun a comme son cheminement. Puis je pense que ce qui fait la beauté, c'est un... On parlait d'artiste tout à l'heure. C'est pas toujours facile. Des fois, il faut dessiner un peu la trajectoire pour atteindre notre objectif. Oui, il y a des tendances, mais quand même, il faut savoir s'adapter. Puis le mot l'adaptation, c'est vraiment la clé pour pouvoir avoir de la réussite, je pense.
Et le rythme de rencontre comme ça, justement, cette relation-là, est-ce qu'on parle de rencontre d'un suivi qui est journalier, qui est hebdomadaire? Donc, comment ça se passe un peu concrètement, l'accompagnement puis la dynamique entre les athlètes puis l'équipe médicale?
Bien, premièrement, l'équipe médicale voyage à peu près partout avec nous. Ils montent en bus quand on va à Montréal, toujours disponibles pendant toutes les heures de la journée à peu près. Ils ont un local directement dans le vestiaire. Il y a deux rencontres qui sont à peu près obligatoires. Il y a la rencontre de début d'année pour créer une espèce de... je vais dire baseline, désolé de l'anglicisme, mais pour avoir des données de base pour pouvoir comparer si jamais il arrive quelque chose pendant la saison. Puis ensuite, à la fin de la saison, il y a les rencontres de fin de saison pour s'assurer que les joueurs finissants ou les joueurs qui reviennent l'an prochain ne sont pas tout seuls dans leur processus de réhabilitation. Sinon, ça marche surtout, corrige-moi si je me trompe, là, mais ça marche surtout par prise de rendez-vous. Donc, parce que, tu sais, il y a beaucoup de joueurs dans une équipe de foot, puis c'est pas tout le monde qui ont les mêmes besoins, mais ceux qui ont des besoins plus urgents peuvent prendre rendez-vous à travers un document Excel qui est partagé à tout le monde puis que tout le monde a accès. Puis ensuite, la physiothérapeute ou le physiothérapeute qui est sur place ben, va s'occuper de nous selon la plage horaire qu'on a choisie.
Donc, à la demande, aux besoins, puis en fonction d'objectifs aussi, puis du plan de match que vous donnez au départ.
Exactement.
On essaie toujours de trouver un équilibre, autant au niveau, comme on disait, de répondre aux besoins des entraîneurs, aux besoins des athlètes. C'est sûr qu'il y a un équilibre financier, on ne se le cachera pas, dépendamment des programmes. On a la chance au football au GR d'avoir une super belle structure, quasiment au niveau professionnel. Mais c'est toujours essayer de trouver un équilibre, puis d'expliquer aux athlètes, dire, ben faut que tu catégorises un peu qu'est-ce qui se passe. Là. C'est-tu une urgence? Ça peut-tu attendre? On peut-tu se voir? Puis moi, je suis assez ouvert. J'aime ça avoir une relation assez proche. Puis Laurence Boucher, qui travaille avec moi comme physiothérapeute-chef du football, tous les athlètes ont notre numéro de cellulaire personnel. Ils ont accès à nos réseaux sociaux. Ça veut dire que s'il y a une urgence, on va te dépanner. Mais si tu as un... je sais pas si c'est une petite blessure, ça peut attendre au lundi, t'es pas obligé de m'appeler à 1h du matin le vendredi soir. T'sais, vous comprenez? Ça veut dire que je pense que c'est un équilibre, puis c'est une relation de respect qui se bâtit avec le temps, puis c'est une culture, ça prend un certain nombre d'années, mais aujourd'hui, je pense qu'on a un bon plan qui réussit bien. Puis s'il arrive vraiment une urgence, ben ça arrive des fois qu'on a un appel, mais au moins on sait qu'on peut les aider puis essayer de trouver la meilleure solution possible.
Et on parle évidemment de la place de l'humain, donc comme destinataire de ce soin-là, comme source d'accompagnement, mais évidemment dans le contexte, il y a aussi le sport qui est pratiqué. J'imagine qu'on n'a pas la même approche en physiothérapie, par exemple, au hockey versus au football. De ce que je comprenais, le football, c'est quand même particulier parce que c'est tout le corps, dans le fond, qui est concerné comparativement à d'autres sports.
Ça dépend. Le hockey est un sport quand même assez complet, je vous dirais, un peu comme le basketball. On demande d'avoir des orteils à la tête, là, ça bouge beaucoup. C'est sûr que si on ajoute un sport de contact, on ajoute un plus grand risque de blessure. Le hockey n'en est un, par exemple. Le rugby, c'est un bon exemple aussi. C'est sûr qu'il y a certains sports, comme j'ai déjà couvert aux Jeux panaméricains au Chili, le tir à l'arc. C'est sûr que le risque de blessure du membre inférieur est beaucoup plus limité. Mais le risque de blessure à l'épaule, par exemple, avec des postures statiques et de la précision, est beaucoup plus élevé que certains autres sports. Ça veut dire que ce qui est le fun dans notre domaine, c'est qu'il faut s'adapter en fonction des différents sports. Parce que les sports, justement, il y a des sports très statiques, très de précision. Il y a des sports qui vont demander juste une certaine partie du corps, comme d'autres plus globales, où est-ce que là, il y a des contacts qui peuvent avoir des traumas. C'est différent. Ça veut dire qu'à chacun, je pense, que trouve sa passion puis son X là-dedans, là, dépendamment de ce qui l'intéresse.
Et on disait tantôt, puis c'est quelque chose que je tiens à rappeler, dans le fond, que, et en gros, c'est ce que tu mentionnais, au football, il y a quand même des périodes assez intensives, et à un certain point, c'est rare que l'athlète va sortir de la saison complètement indemne ou presque. Est-ce que c'est un peu un acquis, dans le fond, de se dire, bien, à un moment donné, on va avoir à jouer avec la douleur, et à un moment donné, il va avoir une approche de gestion, dans le fond, d'encadrement, d'accompagnement de cette douleur-là, à laquelle on ne pourra pas nécessairement échapper?
Oui, absolument. Il y a plusieurs types de pathologies qu'on peut voir au football. Puis ça, il y a des blessures qui sont plus graves que d'autres. Il y en a qui n'impliquent pas des risques de s'aggraver. Puis, tu sais, là, il y a plusieurs cas différents, là. Mais je parle en généralité. Il y en a des pathologies qui sont pas graves puis qu'on peut jouer quand même malgré la douleur. Fait que là vient vraiment l'importance de la gestion de la douleur puis surtout de la compréhension de la pathologie. Puis tu sais, l'équipe médicale fait un bon travail là-dessus sur comprendre la pathologie, comprendre les risques impliqués avec cette pathologie-là. Puis c'est une décision qui est commune. C'est jamais la décision seulement de l'équipe médicale, seulement des coachs. C'est souvent une discussion entre les joueurs, entre le joueur, les coachs et l'équipe soignante, qui va vraiment déterminer qu'est-ce qu'on fait avec cette pathologie-là, puis c'est quoi le plan de traitement, c'est quoi le plan d'action, est-ce qu'on repermet le retour au jeu. Puis il y a aussi tout l'aspect objectif d'équipe, objectif individuel. La gestion du temps est différente. T'sais, on a un match à chaque semaine à jouer. Puis les enjeux sont différents à chaque semaine. Il y a des semaines où on veut absolument avoir tel plan de match, on a besoin de ce joueur-là, est-ce qu'on peut faire jouer ce joueur-là ou pas vraiment? Est-ce que ce joueur-là est prêt à jouer aussi? C'est important. Puis le football, c'est un jeu de gestion de la douleur. L'équipe qui va le mieux gérer sa douleur va normalement être victorieuse.
Donc, on revient à l'importance de l'équipe médicale, exact. Au final.
Oui, vraiment. Puis, tu sais, notre rôle en tant qu'équipe médicale, tu sais, puis pas juste les physiothérapeutes, il y a les médecins, il y a les kinésiologues, on est une belle petite équipe médicale qui nous permet de discuter ensemble puis de prendre une décision commune sur un cas. C'est sûr que si l'athlète, ça le met à risque, exemple, une commotion cérébrale, c'est non, il ne joue pas, il n'a pas fait ses protocoles, on sait les impacts qu'il peut avoir sur du long terme, ça, c'est clair. Mais des fois, comme Yann expliquait, il y a une zone grise. Des fois, on peut utiliser un orthèse, un taping qui permet de jouer sa dernière partie de la saison ou des choses comme ça, mais ça reste toujours la décision finale, reste à l'athlète. Si l'athlète ne veut pas jouer, pour la même blessure, il y en a qui vont vouloir jouer, d'autres pas. Ça veut dire que l'athlète qui ne veut pas jouer, il ne veut pas jouer, on le respecte là-dedans. Lui qui veut jouer, ben, on lui explique les possibles conséquences, les risques, les pourcentages, etc., selon la science, puis on prend une décision commune rendue là. Ça veut dire que notre rôle, c'est ça qui est le plus difficile, puis c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment l'enseigner à l'université. Cette zone grise-là, ça demande du terrain, ça demande de l'expérience, parce que c'est pas tout le monde qui évolue. On commence avec le même diagnostic, il y en a que ça va super bien, ils évoluent super rapidement, puis ils vont être capables de retourner rapidement à l'activité, puis il y en a d'autres que ça traîne, c'est plus difficile, ils ont des cycles inflammatoires plus longs, des cycles de guérison plus longs. Je peux pas tout le temps tout expliquer ce qui se passe à ce niveau-là, dépendamment des gens, de leur âge, de leur alimentation, de leur sommeil. On peut en nommer, il y en a plein de causes. Mais à ce niveau-là, nous, notre rôle, c'est d'essayer de les aider, de jouer dans cette zone grise-là pour jouer sur la ligne du temps, puis de leur permettre de performer en fonction de leur objectif.
Oui, puis j'imagine qu'il y a une différence aussi. On parlait du rythme des matchs de football, donc c'est une fois par semaine versus, ben, Michael Morin, tu as été aux Jeux olympiques pour faire partie de l'équipe physiothérapeutique canadienne. Là, on se retrouve avec une autre dynamique où c'est très concentré, c'est très intense. Il faut s'organiser pour que l'athlète soit prêt dans des périodes qui sont beaucoup plus rapprochées, dans le fond.
Oui, en plein ça. Puis ce qui est difficile, c'est qu'on ne connaît pas tant les athlètes. Tu sais, moi, j'arrive aux Olympiques ou j'arrive dans un des grands jeux, même les tournois d'hockey, l'Hockey Canada. On les a trois semaines. Ça veut dire que tu connais pas l'athlète, tu connais pas son passé, tu connais pas, on connaît un peu ses blessures, mais on a la relation médicale qu'on peut développer avec le patient, ben, avec une équipe sur du longitudinal, un peu comme l'équipe de football. Yann, je me souviens quand il est rentré sa première année, puis le suivre pendant toutes ces années qu'il était chez nous. Puis même, on suit des athlètes professionnels ça fait 8-10 ans qu'on les suit. Ça veut dire que la relation est différente. Ça veut dire que c'est beaucoup plus facile de discuter. Plus facile. Ça nous donne plus d'outils pour pouvoir bien répondre à leurs besoins comparativement à les tournois avec des petites échelles de temps, comme les Olympiques, par exemple. C'est pour ça que là, il faut avoir une bonne discussion avec l'entraîneur, lui expliquer les risques, puis après ça, ben, ils sont en Olympique. Les autres, ça fait 4 ans qu'ils travaillent juste pour ce moment-là. Ça veut dire que là, ça reste la décision de l'athlète, bien sûr, à moins qu'il y ait vraiment une limitation médicale qui le met à risque. Mais sinon, on essaie de leur permettre de vivre ce moment-là du mieux qu'on peut. Là.
Oui, en fait, tu es plus dans une approche de soutien où tu dis, bon, OK, il faut que moi, comme membre de l'équipe, je m'assure que l'athlète est capable de performer à son meilleur niveau au moment où il va être appelé à faire cette performance-là.
Effectivement, puis ça demande de l'expérience. C'est pour ça que les gens qui vont dans ces niveaux de jeu-là, souvent ont plusieurs années d'expérience. Tu sais, moi, je viens de passer mes 15 ans de carrière, puis j'étais le bébé aux Olympiques. Ça veut dire que, vous comprenez, ça veut dire que les gens qui sont là sont 20, 30 ans, 40 ans de carrière. Ça veut dire que quand ils arrivent face à une situation, ils ont beaucoup d'outils dans leur coffre à outils pour pouvoir dire, OK, là, je peux jouer avec ça, ça, ça. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai un laps de temps de 24 heures. Comment je fais pour arriver à l'essayer d'y amener le maximum de pics de performance? Puis là, on arrive, puis on dit ça à l'athlète, on en parle avec l'entraîneur, parfait, on avance. Puis on essaie de les faire arriver à leur sommet au bon moment, puis de les aider du mieux qu'on peut.
Et je fais une parenthèse d'ailleurs, non reliée, là, mais le fait justement d'être appelé aux Olympiques, d'être appelé dans des tournois de degré international comme membre de l'équipe de soins, j'imagine que ça doit être des bons points de référence côté carrière, côté progression, de dire, bon, OK, il y a sûrement quelque chose que je fais qui fonctionne, qui marche pour qu'on vienne me recruter. J'imagine que ça doit être assez satisfaisant. Là.
Quand j'ai eu le téléphone pour aller à Paris, c'était une belle fierté personnelle. Ça, je pense que c'est quand même une chance que j'ai. Puis j'ai travaillé fort pour, mais j'aimerais ça continuer dans cette lignée-là. C'est une super belle reconnaissance. Puis j'aime ça aussi enseigner. J'aime ça pouvoir dire, ben, regardez, j'ai fait ça. J'ai pas tout fait, vraiment pas. Puis j'aime ça apprendre. Probablement que j'aimerais ça continuer de faire des formations continues toute ma vie. Genre pour essayer de toujours apprendre, mieux comprendre les situations. Puis, mais c'est vraiment valorisant, effectivement. C'est un milieu... Alors, oui, des fois, on vit des moments de pression. Je ne vous le cacherai pas. Là, ça paraît super beau en entrevue, là, mais quand on arrive à 24 heures d'arriver à une finale ou de performer, puis là, ben, tu as la pression de le faire performer, ben, faut que tu trouves des solutions pour pouvoir l'amener à ce niveau-là. Amener l'athlète dans ton plan, parce que des fois, même quand tu ne connais pas l'athlète, faut que tu crées la relation de confiance rapidement. Il dit « OK, ouais, je suis d'accord. » Puis là, tu réussis à le faire. Puis là, il réussit à performer, puis il gagne. Puis tu fais un clin d'œil, ça vaut pas mal plus que le salaire que j'ai eu dans la dernière année.
Et est-ce que c'est quelque chose qu'on perçoit? Parce que dans le fond, tu te développes comme athlète de haut niveau. Je pense que tu t'en vas vers la Ligue canadienne de football aussi. Donc, clairement, tu vas poursuivre dans ce créneau-là. Donc, est-ce que la physiothérapie, c'est d'abord quelque chose qui t'aide à mieux comprendre la mécanique de ton corps, à mieux bonifier un peu tes compétences par rapport à ton équipe, ou il y a une satisfaction aussi que tu vas chercher non seulement à toi performer, mais à aider les autres aussi à performer au maximum?
Ben, c'est sûr qu'en tant qu'étudiant athlète, j'essaie de séparer les deux un peu parce que il y a quand même une distinction à faire entre un athlète puis un membre de l'équipe soignante. Puis, tu sais, j'essaie pas de faire les deux travails en même temps. J'essaye de, quand je suis au football, de me concentrer sur mon travail d'athlète. Puis quand je suis aux études, ben plus de me concentrer sur mes facultés en physiothérapie. Par contre, les deux vont indirectement se rencontrer à un certain point parce que je vais subir des blessures. Puis je pense que ça me donne un avantage, mais tu sais, par exemple, je suis allé faire le camp d'entraînement à Winnipeg l'an passé avec les Blue Bombers. Puis je veux pas trop m'impliquer dans l'aspect soins sportifs parce que là, c'est complètement un autre, mais un différent monde parce que les joueurs sont payés. On n'a plus les mêmes motivations. Moi, je ne peux plus avoir les mêmes connexions que j'ai avec les joueurs. Je ne connais plus leur compte. Je les ai vus un mois, puis on a eu des discussions. Mais j'essaie de vraiment faire la distinction entre quand je suis dans le stade de football, je suis un joueur de football, mais quand je retourne sur les bancs d'école ou quand je travaille comme étudiant soigneur ou quoi que ce soit, ben là, clairement, je mets mon chapeau de physiothérapeute.
Ça permet d'avoir une approche peut-être un peu plus saine, puis aussi parce que, je veux dire, de jouer déjà, c'est de la pression aussi, fait que si on s'en rajoute en plus, ben à un moment donné, on perd le focus puis on performe moins bien nécessairement.
Dans une saison, on est très occupé, là. Il y a du travail, il y a tout l'aspect social, il y a le football, puis il y a l'école. Donc, ça devient très occupé. Si tous mes coéquipiers viennent me voir pour leurs petits problèmes, ça peut être problématique. J'essaie d'être toujours disponible pour parler avec mes coéquipiers, toujours disponible pour essayer de les aider ou de les référer vers les bonnes personnes qui peuvent régler leurs problèmes ou du moins les aider à les régler. Mais tu sais, il y a quand même une distinction claire entre le Yann footballeur et le Yann physiothérapeute.
Et en même temps, il y a quand même une reconnaissance, j'ai l'impression aussi, d'une certaine capacité de leadership. De toute évidence, tu as été nommé capitaine du Rouge et Or Football. Et je pense qu'à l'époque, tu étais parmi les moins expérimentés à avoir reçu ce rôle-là comme tel. Donc, j'imagine qu'on le prend un peu comme justement, c'est une reconnaissance de cette capacité-là à bien accompagner, à accomplir ses rôles, ses fonctions.
Ben, c'est sûr que je veux pas répondre pour mes coachs, mais j'ai été capitaine. La première année où j'ai été capitaine, c'est en 2021. Puis, petit rappel, en 2020, c'était la pandémie. Donc, on n'a pas eu de saison cette année-là. Puis, on n'a pas pu faire notre entraînement, notre préparation physique comme d'habitude. C'est-à-dire que c'était vraiment pas idéal, mais on a réussi à quand même faire ce qu'on voulait faire. On a fait beaucoup d'entraînement via Zoom. C'était séparé par position. Puis moi, malgré le fait que c'était seulement ma deuxième année dans le Rouge et Or, ben on a... C'est moi qui s'occupais de gérer la préparation physique des gars. Donc, c'est moi qui prenais les devants pendant les sessions pour s'assurer que la préparation était faite, pour s'assurer que... Parce que après un arrêt de pratique ou d'entraînement pendant plusieurs mois, bien évidemment, le risque de blessure augmente énormément. Fait que moi, je me suis assuré à ma position, du moins, j'ai fait le mieux dont je pouvais faire avec les conditions de la pandémie, pour m'assurer qu'il y avait quand même une continuité entre avant la pandémie, pendant et après la pandémie. Puis ça, je pense que c'est un espèce de leadership que les coachs ont vraiment apprécié de ma part. Parce que, encore une fois, tu sais, moi, ma passion, c'est d'aider les gens à travers la physiothérapie. Puis là, ben, je pouvais pas jouer au football, puis l'école, c'était à distance. Fait que j'ai essayé de, pour une fois, enlever la distinction entre physiothérapeute et footballeur, puis essayer d'aider le mieux possible les gens qui m'entouraient avec ce que j'étais capable de faire. Donc, je pense que les coachs ont apprécié ça. Puis depuis ce temps-là... Encore une fois, je ne veux pas parler pour eux, mais je pense qu'ils ont aimé de la façon dont je lidais l'équipe parce que je l'étais encore la dernière saison, là, qui était ma dernière saison avec le Rouge et Or.
Oui, parce que ce qui est important de se rappeler, c'est que le football, en fait, c'est un sport qui est quand même hyper physique. Je veux dire, c'est un sport de contact, mais il y a aussi une dimension stratégique, une dimension psychologique qui n'est pas évidente non plus. Donc, puis tu disais tantôt, c'est 100 joueurs à coordonner, à s'assurer que tout le monde travaille dans le même sens. Donc, ça reste une grosse machine, le football, de façon générale.
Oui, je suis absolument d'accord. J'ai toujours aimé l'aspect physique dans les sports. J'ai joué au hockey, comme je le mentionnais plus tôt. Mais ce qui m'a vraiment accroché entre le football et le hockey, quand est venu le temps de prendre une décision entre les deux sports, ben, c'était vraiment l'aspect stratégique. Puis l'aspect où mes compétences intellectuelles pouvaient vraiment être mises à profit, même si je n'étais pas le plus gros, ni le plus rapide, ni le plus fort, ben, j'ai quand même réussi à tirer mon épingle du jeu simplement en étant en avance sur les autres intellectuellement par rapport au cahier de jeu ou par rapport aux stratégies de l'autre équipe. Donc, tu sais, l'aspect stratégique du football, c'est, je dirais que c'est peut-être même 60% comparé à l'aspect physique. Puis ça, la plupart des gens qui regardent le football à la télé ne le savent pas, mais c'est vraiment ce qui a fait la différence dans mon cas à moi, l'aspect stratégique.
Et j'ai l'impression, ben justement, pour pouvoir bien se concentrer sur la stratégie, bien se l'approprier, il ne faut pas avoir d'événements parasitaires. Donc, si t'as mal, si t'es pas bien, si tu te sens pas bien, ben t'es moins là mentalement. Si t'es moins là mentalement, tu performes moins bien. Donc, on comprend que l'approche de soins devient essentielle pour libérer, oui, le corps, mais aussi l'esprit pour l'engagement vers le jeu.
Effectivement. Comme je vous dis, c'est un multifacette. Ça veut dire qu'il faut approcher l'athlète. Puis des fois, on voit que quelqu'un récupère moins bien lors d'une blessure, par exemple, ben, en creusant un peu plus avec lui, en discutant avec, on se rend compte que des fois, il y a du stress externe, il y a des facteurs externes qui viennent influencer l'évolution de la blessure, puis ça nous permet de mieux comprendre. Puis quand on désensibilise ces cordes-là, ben là, tout d'un coup, ah, OK, le retour au jeu est beaucoup plus facile, la performance est meilleure, puis tout le monde est gagnant là-dedans.
Et en parlant de ce que tu mentionnais, Michael Morin, dans les Jeux olympiques, par exemple, on se retrouve dans une approche où tu es habitué de travailler avec du football, donc c'est le gros de la charge, j'ai beaucoup dans ce sport-là, mais dans un contexte, là, subitement, on fait le pas de côté, on se retrouve dans une dynamique multisport, donc avec une variété d'humains, on le disait tantôt, mais également avec une variété de pratiques, donc ça doit ajouter une pression ou une dynamique particulière à l'approche de soins dans un contexte comme celui-là aussi.
Oui, effectivement, parce que quand on va dans des jeux comme ça, souvent, ils vont nous attitrer différents sports. Ça veut dire que, dans le fond, moi, quand je suis allé, exemple, au jeu, ben, au jeu Paname, j'avais 6 sports. Aux Jeux olympiques, j'avais 3 sports particuliers. Puis en plus, ben, quand on fait notre journée sur le terrain, ben, le soir, on s'en va à la clinique. Puis là, il faut faire la couverture au niveau clinique, la clinique canadienne qui est dans le village olympique. Puis là, ben, là, tout le monde peut débarquer, là, parce que des fois, il y en a qui sont il y a une partie de l'équipe qui est partie sur la route. Là, on va voir un cycliste, on va voir quelqu'un qui fait du tir à l'arc, comme je parlais tout à l'heure. On va voir du water polo. Tu sais, même des sports que moi, j'ai jamais pratiqué. Puis là, je suis comme, OK, là, c'est très exigeant mentalement, parce qu'il faut tout le temps que tu t'adaptes. Faut que tu analyses biomécaniquement qu'est-ce qui peut se passer. Sortir tes outils, comment les utiliser, savoir que tes outils de traitement peuvent t'aider à aller chercher telle performance. Faut pas t'irriter trop, parce que sinon, tu vas lui nuire. Faut que tu les aides. Faut que tu lui donnes des conseils, etc. Ça veut dire que le cerveau est en ébullition tout le temps parce que c'est tout le temps en train de... Un peu comme, sans nommer une urgence, mais tu sais pas ce qui va débarquer dans la clinique. Puis il faut s'adapter. C'est vraiment passionnant. Tu vis sur l'adrénaline tout le temps. Mais c'est sûr que quand tu reviens là, à la maison, là, tu ressens un peu cette vague. Puis là, la fatigue arrive. Là, pouf, la balloune dégonfle, comme on dit. Là. Mais c'est des expériences incroyables. Puis même au niveau professionnel, ça nous permet justement de développer des capacités d'adaptation, puis de ça te donne des outils, parce que tu sais, moi j'ai fait beaucoup de football, beaucoup de hockey. C'est sûr que de voir des sports nouveaux, c'était super intéressant de t'ouvrir quand tu lis des livres de référence, par exemple. Ben ça t'amène à une autre vision que tu peux penser différemment, puis c'est super intéressant.
Oui, puis j'imagine, en fait, c'est quoi? Vous étiez 14 dans l'équipe de soins. Donc, si tu me disais tantôt, ben j'étais le moins expérimenté avec 15 ans derrière moi, mais ça veut dire aussi que ça fait 13 autres personnes avec qui tu peux jaser, tu peux échanger. Puis j'imagine qu'il y a une notion de partage d'expérience aussi qui doit être intéressante.
Oui, vraiment. Il y avait, tu sais, on était trois physiothérapeutes, un thérapeute en chef, il y avait des chiro, des médecins du sport, bien sûr. Il y avait 7 médecins du sport, des psychologues sportifs, etc. Ça veut dire que l'équipe, oui, on était très proches, les 14, ça veut dire qu'on pouvait se faire des rencontres où quand on couvrait la clinique, des fois, on était 2-3 tout le temps. Ça veut dire que les discussions, les façons aussi de travailler au niveau du Canada au complet, des fois, les approches sont différentes. Ça veut dire qu'on peut apprendre l'un de l'autre, on peut discuter de cas, etc. Ça veut dire que c'est super intéressant. Puis ça te fait ça développe un excellent réseau pour l'avenir. Même quand on revient des jeux, c'est des relations qu'eux ont vécu la même chose que nous. Ça veut dire que, disons, quand tu as une question, ben, tu sais que tu peux appeler à Vancouver et avoir une réponse rapidement, ou tu as besoin d'un réseau de contact pour tel athlète ou tel coach ou peu importe, d'avoir ces relations-là. Ben, c'est sûr que ton réseau s'agrandit rapidement, puis c'est vraiment intéressant et utile.
Et en fait, sans faire un parallèle boiteux, mais si on fait le saut, tu parlais tantôt justement des camps d'entraînement du côté de la Ligue canadienne versus la saison régulière au OJR. J'imagine que c'est pas la même intensité, on se prépare pas de la même façon, c'est pas les mêmes joueurs, c'est des joueurs qu'on connaît moins. Donc, j'imagine que des adaptations comme Michael a à faire pour le volet médical dans un contexte intensif, tu as un peu la même chose à faire sur le volet athlète, sur le volet joueur, dans le fond, dans un camp d'entraînement comme ça.
Absolument. Tu sais, la plus grosse différence que moi, que j'ai remarqué, du moins entre le Rouge et Or, ou du moins le sport universitaire qui est amateur, puis le sport professionnel, c'est l'argent. J'explique. au niveau universitaire, si on a des lacunes dans l'équipe ou on a des positions qui sont problématiques, on va faire avec. Puis on va s'arranger en tant qu'équipe pour essayer de peut-être cacher ces faiblesses-là ou du moins essayer de les gérer d'une façon qui va nous permettre que ça ne devienne pas trop des lacunes. Au niveau professionnel, ce qui arrive, c'est qu'ils vont couper les joueurs. Donc, il va juste... Tu sais, à chaque jour au camp d'entraînement, il y avait... peut-être 2 à 8 joueurs qui se faisaient couper, puis ils en ramenaient un autre 8. Fait que c'est vraiment différent. À la place de faire avec les joueurs qu'on a, on essaye de construire l'équipe parfaite pour arriver à nos buts. Fait qu'il faut que tu trouves tes repères, il faut t'assurer que t'es là pour les bonnes raisons, puis que t'es prêt à vivre ça. Puis autant qu'en physiothérapie sportive, ça demande de l'adaptation, autant que je pense qu'en tant que joueur professionnel aussi, ça en demande.
Oui, puis dans le fond, à un moment donné, la piqûre, la passion du sport est là aussi, l'opportunité est là. Donc, mm-hmm. on se dit, ben ça reste une sacrée belle opportunité pour continuer à se développer comme joueur puis continuer à avoir des nouveaux défis parce qu'évidemment, plus on avance, plus le niveau de jeu devient intensif, plus il faut continuer à avoir une capacité de jeu qui est de plus en plus ample. Dans le fond, on continue à se développer.
Exactement.
Et est-ce que ça fait de la pression? Parce que là, tu t'en vas là, je pense. Donc, ça, c'est un stress ou une dynamique particulière à dire, bon, OK, on finit une période, on va finir les études aussi en même temps. Ouais. Après ça, oups, on passe à autre chose puis on se reconcentre entièrement sur le jeu pendant une certaine période.
Oui, bien, c'est sûr que ça demande une concentration. Puis c'est une concentration quand même à long terme parce que, oui, en ce moment, je suis à l'école puis je m'occupe de tout ce qui est ma maîtrise et tout ça, mais je peux pas mettre le football de côté puis espérer que tout aille bien une fois rendu là-bas. Faut quand même que je me prépare physiquement, faut que je me prépare mentalement. Puis moi, j'ai une position qui est particulière, c'est spécialiste des longues remises. C'est une des seules positions au football où tu pars avec le ballon dans les mains. Donc, si tu manques ton lancer ou si tu manques ta remise, c'est de ta faute. Donc, tu sais, tu reçois pas une passe, tu peux pas avoir une mauvaise remise à toi du corps arrière, il peut pas avoir un ballon... Le ballon sort des mains de l'arbitre avec une serviette qui l'essuie, donc le ballon est sec. Dans mes mains, je pars avec. Donc, c'est surtout une approche systématique. Puis je pense que mes études en physiothérapie m'ont aidé à avoir une espèce d'approche systématique puis d'être très rigoureux. Surtout avec mon projet de maîtrise, là, on joue beaucoup avec les paramètres d'une recherche en santé. Puis je l'approche un peu comme ça. Je peux pas essayer de changer mon élan de remise en essayant n'importe quoi aléatoire. Il faut que j'y aille purement. OK, le ballon est arrivé à telle hauteur. Si je change un paramètre à la fois, qu'est-ce que ça change sur ma remise?
Et à travers tout ça, d'ailleurs, ça m'amène à ce qu'on parlait des différences, par exemple, entre une dynamique rouge-or versus ce jeu professionnel, ou même de façon large, en fait, est-ce que chaque pays, chaque équipe, chaque groupe, on le disait tantôt, il n'y a pas une façon unique d'envisager la physiothérapie. Donc, est-ce qu'on voit beaucoup de différences, de philosophies différentes peut-être aussi, que ce soit en fait avec les Jeux olympiques, les tournois mondiaux ou les expériences que tu as eues de ton côté? Donc, je vous lance un peu la question.
Comme moi, je suis en sport à l'international, je vais traiter les athlètes comme je les traite ici au Québec. Tu sais, je veux dire, mes forces vont rester les mêmes forces si je suis en Russie ou si je suis en Europe ou si je suis en Amérique du Sud. Mais puis les athlètes vont avoir le même type de traitement. C'est juste qu'on voit un peu les tendances quand on rencontre d'autres pays, d'autres équipes médicales, etc., voir leurs standards, leur qualité de traitement. Je peux vous... J'ai une histoire en tête, là. J'étais dans le championnat du monde au hockey, puis ils nous réunissent, dans le fond, les 10 équipes au centre de la glace pour nous présenter leur protocole d'urgence, dans le fond. S'il y a quelqu'un, par exemple, qui perd connaissance ou il se fait frapper, puis il y a un problème cervical, etc. Puis dans ce pays-là, eux, leur technique, c'est... Nous, on a des techniques très protocolaires de comment plancher quelqu'un, après ça, le mettre dans le matelas coquet, l'amener, etc. T'sais, c'est très, très pointu et rigoureux pour éviter le maximum de possibles traumas à l'athlète. Mais eux, ils disaient, tu prends 4 personnes... Chacun un pied, chacun une main, tu tires sur l'athlète, puis tu le mets sur la civière, puis il faut que ça sorte parce que ça ralentit le temps de jeu, puis ça ralentit le temps d'antenne pour la télé. Mais là, on a fait OK, non, merci. Vous êtes là avec le médecin en chef de l'équipe, on a rencontré l'organisation, puis on a dit s'il arrive quoi que ce soit sur la glace, vous ne touchez pas à l'athlète. Puis il y a même eu une dérogation demandée au IIHF, là, la Fédération internationale de hockey, de dire. OK, nous, les athlètes canadiens, on gère nos athlètes. On ne veut pas que vous y touchiez parce que vos protocoles ne sont pas selon nos standards. Puis on n'acceptera pas ce qui peut arriver à ce niveau-là. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Ça dépend vraiment des pays. On n'a pas toutes les mêmes avancées, les mêmes standards, les mêmes protocoles. Puis je pense que chaque pays est capable de se protéger puis de se régler, de mettre ses propres réglementations. Puis c'est respecté. C'est pour ça qu'il y a une fédération internationale qui vient protéger tout ça.
Puis moi, au niveau professionnel, moi, ce que j'ai remarqué, la plus grande différence entre le rouge et or ou le football universitaire puis les rangs professionnels, c'est l'attitude des athlètes face à la physiothérapie. J'explique. Au rouge et or, on a une offre de soins qui est vraiment large, puis il manque pas de personnel, ou du moins, tout le monde peut retrouver ce qu'il a besoin pour performer au maximum. Les athlètes, pendant le camp d'entraînement, par exemple, je vais comparer les camps d'entraînement parce que j'étais pas là la saison à Winnipeg. Donc, pendant les camps d'entraînement au Rouge et Or Football, Mick va pouvoir en témoigner. Entre les pratiques, après les pratiques, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs qui vont dans le local de physiothérapie pour des massages, des traitements ou simplement pour des conseils. Au niveau professionnel, moi, ce que j'ai remarqué pendant le camp d'entraînement, à peu près personne va en physiothérapie. Puis, ce que je pense avec mes petites recherches à l'interne, c'est que les joueurs ont peur de se retrouver sur la liste de blessés. Encore une fois, par peur de perdre leur poste, par peur de se faire couper, par peur de perdre leur salaire. Donc, c'est vraiment une attitude qui est différente. J'imagine qu'en saison, ça change. Je peux pas parler à travers mon chapeau puis dire comment ça se passe pendant la saison, mais ce que j'ai remarqué, c'est vraiment pendant le camp d'entraînement, l'attitude face au physio. Au rouge et or, c'est vraiment plus, on veut optimiser, je veux de l'aide, tandis qu'au professionnel, c'est plus, j'espère qu'ils vont pas découvrir que j'ai mal. Puis, ben moi, je pense pas que ça va être ça, mon attitude. Là. J'ai des connaissances en physiothérapie, puis personnellement, je pense pas que retarder les traitements va m'aider à long terme. Fait que...
Même au contraire, ça risque de te nuire à long terme, d'aggraver finalement quelque chose qui aurait été correctible en quelque chose qui devient peut-être justement un élément qui va t'envoyer sur le banc pendant un certain temps.
Oui, possiblement, en effet.
Effectivement, mais si je peux renchérir...
Oui, vas-y.
Yann est dans une position, qui sait qu'il va avoir terminé sa maîtrise, qu'il va avoir un emploi par après. Mais pour avoir gravité dans d'autres milieux, où est-ce que des fois c'est des milieux plus défavorisés, ou même au niveau professionnel, il y a des gens qui n'ont pas nécessairement l'éducation, puis ils ne savent pas que l'après-carrière va être quoi. Ça veut dire que là, la notion de jouer, de cacher les blessures, la notion de, un peu comme Yann expliquait, toute la technicalité sur le terrain ou sur la glace, d'arriver et dire, quand je reçois la rondelle, c'est plus un jeu, c'est un travail. Si je tire pas, ou est-ce que j'ai le maximum de chances de marquer un but, ben ce but-là me vaut 50 000 de plus sur mon salaire par année. Ça veut dire que, pour avoir déjà eu ces discussions-là avec certains anciens professionnels qui sont souvent des entraîneurs, c'est vraiment intéressant de voir à quel point que ça devient un travail de minutie, puis que les options d'après-carrière sont très différentes de personne en personne, ce qui peut vraiment influencer des fois le cheminement lors d'une blessure, par exemple.
Et tout ça en se rappelant aussi que, j'imagine, en physiothérapie, il y a des éléments qui sont clairs, que la science démontre de façon hors de tout doute, ou presque, en gardant un doute raisonnable que la science impose, évidemment. Et il y a d'autres choses aussi, des traitements qui, c'est pas encore clair. Par exemple, est-ce que je mets du chaud ou du froid? Ben, la littérature le dit pas clairement. Donc, dans ce cas-là, ça devient un peu un choix qui est faite par l'équipe de préconiser un type de traitement versus un autre.
Oui, puis aussi, ben, comme on a parlé, on traite des humains. Hein? Ça veut dire que la glace, il y en a qui disent « Ah, oh, on ne met jamais de glace, jamais, 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 jamais. » Mais je ne sais pas si vous êtes déjà fait opérer ou vous avez déjà eu une bonne blessure. Des fois, on a tellement mal qu'on cherche des options. Ben, la glace, ça l'enlève, la douleur. Ça veut dire que, oui, ça va peut-être ralentir le processus inflammatoire, comme certaines études le démontrent, mais en quelque part, si tu as tellement mal, tu es tout le temps contracture, tu n'es pas plus avancé non plus. Ça veut dire qu'il faut trouver un équilibre là-dedans. Même chose pour la chaleur. Ça veut dire que la chaleur, on sait que si on met de la chaleur sur de l'inflammation, c'est pas bien. Ça va juste continuer d'augmenter avec la vascularisation. Mais en même temps, quelqu'un qui est tellement courbaturé, exemple au niveau lombaire, ben la chaleur va peut-être détendre le muscle, puis ça va permettre une meilleure récupération. Ça veut dire que là, c'est dur de faire des projets de recherche vraiment précis pour être précis à chacune des personnes. C'est souvent des études, des projets de recherche et des cohortes. C'est généralisé. Mais je pense que l'important, c'est d'avoir plusieurs outils. Des fois, on fait des essais-erreurs. Tant qu'on ne blesse pas le patient puis qu'on essaie de l'aider, ben éventuellement, on trouve notre X, comme on dit, puis que le patient, lui, se sent bien. Ça veut dire qu'il trouve sa propre recette, puis on l'aide là-dedans, puis on peut permettre de le faire évoluer là-dedans.
Et en terminant, ben en fait, il y a une question qu'on pose à tous nos intervenants. Alors, c'est la suivante. Avec qui aimeriez-vous prendre rendez-vous si vous pouviez choisir n'importe qui, vivant ou mort? Et la partie importante, pourquoi? Alors, Yann Leroux?
Il y a une équipe de la Ligue nationale de football, les Dolphins de Miami. Puis, il est arrivé un incident l'année passée, c'est-à-dire que leur corps arrière, un des joueurs très importants au football, s'est blessé, a subi une commotion cérébrale. Il a subi une commotion cérébrale qui semblait à la télévision assez, assez intense. Il a perdu connaissance sur le terrain. Il y avait des mouvements spastiques. C'était clairement, il s'est passé quelque chose au point de vue neurologique. Ensuite, l'équipe a engagé un neurologue externe pour l'évaluer puis pour s'occuper de ses traitements. Ce neurologue-là, 4 jours plus tard, lui a donné le go pour retourner au jeu. Puis là, la ligne du temps, je ne sais pas si c'est exact ce que j'ai, mais en gros, c'est ce qui s'est passé. Le match d'après, il s'est reblessé avec une autre commotion cérébrale qui était horrifiante même. Là. C'était digne d'un film d'horreur, encore une fois, avec des spasmes, avec une perte de connaissance claire. Puis j'aimerais ça prendre rendez-vous avec ce neurologue-là pour lui poser des questions par rapport à son protocole, comment il l'a évalué, puis qu'est-ce qui a motivé cette décision-là de le retourner au jeu. Est-ce que c'était motivé par des acteurs secondaires ou c'était purement en pensant sincèrement que ce joueur-là était prêt à retourner au jeu? Puis j'aimerais ça aussi avoir accès au dossier pour voir comment on aurait pu faire pour éviter une blessure comme ça, puis quelque chose qui, par la bande, a mis de la lumière sur le risque de blessure au football, mais aussi qui a mis en danger énorme un athlète qui avait un bel avenir devant lui. Fait que c'est lui que j'aimerais se rencontrer, le neurologue des Dolphins.
Et Michael Morin?
C'est une bonne question. À travers ma courte carrière, j'ai eu la chance de rencontrer quand même certaines de mes plus grandes idoles, là, comme Patch Adams, Wayne Gretzky, etc., à travers différents tournois. Quelqu'un que j'ai jamais que j'ai déjà rencontré, mais que j'ai jamais pris le temps de m'asseoir et de discuter avec lui, Dr. Mulder du Canadien de Montréal, je pense qu'il doit être une bible avec ses... Je pense qu'il y a les 10 Coupes Stanley, je ne me trompe pas. Toute l'épopée des grands Québécois qui ont joué à travers la pression, avec les relations avec les Anglais, les Français, etc. Ça doit être vraiment intéressant d'apprendre toute cette évolution-là. Lui, il a même travaillé dans le temps où est-ce que les salaires des joueurs n'étaient pas astronomiques. Ça veut dire que les joueurs jouaient vraiment pour leur patrie. Il devait avoir quelque chose de vraiment intéressant à discuter avec lui, puis de voir cet aspect-là, à ce niveau-là, ça doit être vraiment intéressant. Ça m'intéresserait.
Alors, Michael Morin, je rappelle, donc professeur clinique chargé d'enseignement à l'École des sciences de la réadaptation, directeur des opérations médicales à la clinique du PEPS et physiothérapeute. Yann Leroux, étudiant à la maîtrise en physiothérapie sous la supervision de Michael, athlète rouge et or, capitaine de l'équipe de football. Merci beaucoup à vous deux.
Merci à toi.
Cette balado était présentée par la Faculté de médecine de l'Université Laval en collaboration avec la clinique du PEPS, la plus grande équipe en médecine du sport et de l'exercice à Québec.